Europe 1, il est 7h.
70% à Lyon de l'espace urbain est alloué à la voiture. On va simplement favoriser la marche à pied, le vélo, les transports en commun.
Lyon passe au vert, c'est l'une des grandes villes désormais dans le giron des écologistes. Nous verrons ce que ça va changer concrètement. Nous irons aussi à Marseille où les tractations ont commencé pour remplacer Jean-Claude Gaudin. Et Mickaël Darmon nous dira qu'Édouard Philippe a bien envie de s'installer au Havre. Fessenheim, c'est fini, la plus ancienne centrale nucléaire française est désormais à l'arrêt. Place maintenant au démantèlement qui va durer 20 ans.
Ce technocentre, c'est aussi une suite industrielle sur le site même de la centrale. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une décision ferme et définitive d'implantation à Fessenheim.
300 millions pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers, on est très loin du compte, disent leurs représentants.
On est en train de signer la mort programmée de l'hôpital public, mais qu'on nous l'affiche, qu'on nous le dise.
Et aujourd'hui est d'ailleurs une nouvelle journée de mobilisation nationale des soignants.
Si vous envoyez vos enfants chez les grands-parents pour les grandes vacances, quelles sont les précautions à prendre ? Votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation Anissa Mbida qui nous présente un nouveau téléphone pour aider les malvoyants en ville. Et puis enfin, c'est acté, JO ou pas à Tokyo l'an prochain. Interdiction pour les athlètes de faire passer des messages politiques. Le CIO a des concepts totalement obsolètes pour Virginie Fulpin, son édito de sport, après 7h20. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Bordeaux, Strasbourg, mais aussi Lyon. Les Verts se sont emparés d'un nombre historique de grandes villes aux dernières municipales. Et en prime à Lyon, ils ont raflé la métropole, ce qui veut dire qu'ils ont tout pouvoir pour gouverner et instaurer une sorte d'agglomération écologiste modèle. Jean-Luc Bougeon nous dit à quoi elle pourrait ressembler.
Tout était déjà annoncé dans un petit flyer distribué aux Lyonnais dans chaque arrondissement pendant la campagne des Verts. Sur ce flyer, un plan du quartier intitulé « Imaginez Lyon dans une métropole écologiste » et des logos correspondant aux 30 mesures à mettre en place très vite. Par exemple, dans le premier arrondissement, ce sont 1000 arbres qui vont être plantés, un verger municipal qui va être créé, mais aussi une cité des artisans et des réparateurs. Il y aura aussi un grand plan vélo à l'échelle de la ville, détaille Fabien Bagnon, futur conseiller métropolitain.
Il y a énormément d'autoroutes urbaines encore dans le centre de Lyon, donc il y a les quais du Rhône. On a 3 à 4 voies de circulation. Clairement, notre projet, c'est d'en mettre plus que 2. 70% à Lyon de l'espace urbain est alloué à la voiture, alors qu'en termes de déplacement, c'est à peine 26% des déplacements. On va simplement rééquilibrer, favoriser la marche à pied, le vélo, les transports en commun.
Dans le projet des Verts, il y a aussi la création d'une forêt urbaine près de la gare de la Part-Dieu et la mise en place d'une police à cheval, sans oublier une mesure phare pour la jeunesse, la ville des enfants, un aménagement pour sécuriser les abords des écoles, les végétaliser et protéger les enfants de la chaleur. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
À Marseille, la situation est un peu plus compliquée. La candidate écologiste Michèle Rubirola évoque une victoire relative avec la coalition de gauche.
Oui, dans la deuxième ville de France, il va falloir attendre samedi pour connaître le nom du maire qui sera élu lors d'un troisième tour au conseil municipal. D'ici là, c'est le petit jeu des négociations. Michèle Rubirola tient la corde, mais à l'origine, elle n'avait pas l'ambition de devenir maire de Marseille. Nathalie Chevance.
C'est une difficile semaine de tractation qui s'annonce pour Michèle Rubirola, potentielle future maire, qui l'avouait elle-même il y a quelques jours, la tambouille politique, très peu pour elle.
J'ai toujours eu des idéaux, j'ai eu des combats, j'ai mené des combats politiques, mais je ne suis pas une professionnelle de la politique, moi je suis médecin.
Médecin conseil à la sécurité sociale dans les quartiers nord, femme de terrain, militante associative, écologiste, mais inexpérimentée politiquement. Michèle Rubirola, pas toujours au fait de tous les dossiers, compte s'entourer.
Ce que je me dis quand même, c'est avant tout, on a une équipe. On a mené la campagne collectivement et on gérera la ville collectivement.
Et vous n'avez pas peur de vous imaginer à la place de Jean-Claude Gaudin dans cette immense salle du conseil municipal ?
Vous savez, j'essaye d'être dans le moment présent, ici et maintenant, et de ne pas essayer de me faire peur. Pas du tout.
Et Michèle Rubirola, 63 ans, mère de 3 grands-enfants, déroule ses priorités.
L'urgence, c'est les écoles qui sont en véritable danger dans certains quartiers pour nos enfants. Arrêter de vendre notre ville à tous ces promoteurs privés. Une ville plus verte, plus juste et plus démocratique.
Un programme et une équipe ancrée à gauche qui devront encore convaincre d'ici le troisième tour. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et après la vague verte, Emmanuel Macron a reçu hier à l'Élysée les 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat. Il écarte notamment les 110 km/h sur autoroute, mais va transmettre la grande majorité de leurs propositions au gouvernement ou au Parlement. Certaines seront soumises à référendum.
Le Premier ministre Édouard Philippe s'est facilement imposé au Havre. Partira, partira pas. Ça, c'est la question. La question de son maintien à Matignon sera tranchée d'ici la fin de la semaine.
Et selon les confidences que vous avez recueillies, Mickaël Darmon, il se verrait bien dans le costume de maire, car il pense être arrivé au bout de son chemin avec Emmanuel Macron.
Oui, a priori, l'histoire est désormais terminée d'un côté comme de l'autre. Édouard Philippe est loyal au président, les deux hommes se respectent et leur relation aura été une des plus pacifiques dans l'histoire des couples de l'exécutif de la Ve République. Mais voilà, aujourd'hui, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont du mal à envisager de continuer à travailler ensemble. Alors, on ne va pas dresser ce matin toute la liste des désaccords entre les deux, mais enfin, il faut savoir qu'elle est longue, depuis les 80 km/h, la taxe sur le diesel ou encore la réforme des retraites. Et pas plus tard qu'hier, Emmanuel Macron a fait de la Convention citoyenne une instance lanceuse d'alerte, une orientation qui ne correspond pas du tout à la culture d'Édouard Philippe. Et puis, il y a aussi l'envie pour Édouard Philippe de retourner dans sa ville du Havre. Alors, pour toutes ces raisons, eh bien, effectivement, il se verrait bien devenir maire avec le sentiment de ne pas avoir démérité depuis 3 ans, avec la satisfaction d'avoir apporté au président la victoire la plus éclatante du deuxième tour des municipales, alors qu'il n'a jamais voulu rejoindre La République En Marche. Édouard Philippe devrait présenter la démission de son gouvernement au président de la République d'ici la fin de la semaine.
Votre fait politique, Mickaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
1977-2020, la doyenne des centrales nucléaires françaises a cessé de fonctionner hier soir à 23h.
Oui, le second réacteur a été débranché. Le premier l'avait été en février dernier. Une vingtaine de salariés avaient fait le déplacement. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Place maintenant au démantèlement de l'usine, un chantier titanesque. Jean-Jacques Héry.
Aujourd'hui marque le début d'un pré-démantèlement qui va durer 5 ans. Au cours de cette phase, le cœur du réacteur sera déchargé, le combustible nucléaire radioactif sera ensuite stocké dans des piscines, il y refroidira plusieurs années avant d'être transporté vers le site de La Hague en Normandie où il sera traité, théoriquement à l'horizon 2023. Ce n'est qu'après cette première séquence que le démantèlement à proprement parler pourra débuter. Là, ce sera plus complexe et plus long, 15 ans au total pour tout démonter, déconstruire les bâtiments ou encore découper la cuve nucléaire. Paradoxalement, cela pourrait créer des emplois, 150 exactement, car EDF a pour projet d'installer un technocentre sur le site. L'idée serait d'y recycler les pièces métalliques peu radioactives à partir de 2030, un projet soutenu par le maire de Fessenheim, Claude Brender, même s'il n'y a encore rien de concret.
Ce technocentre, c'est aussi une suite industrielle sur le site même de la centrale. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une décision ferme et définitive d'implantation à Fessenheim.
Dans tous les cas, ce n'est pas avant 2040 que l'on verra une pelouse remplacer le grand bâtiment blanc au bord du Rhin. Le coût total de ce chantier de 20 ans est estimé à 400 millions d'euros par EDF. Fessenheim, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
C'est demain qu'Angela Merkel prend la présidence de l'Union européenne et c'est un moment critique, une crise sans précédent qu'il va falloir tenter de surmonter.
Avec Emmanuel Macron, la chancelière allemande espère réussir à faire adopter le plan de relance dès le sommet européen de juillet. C'est votre éclairage écho ce matin, Nicolas Barré. Et trouver un accord ne sera pas simple.
Oui, vous savez, ce plan, c'est une idée franco-allemande. Donc la chancelière et Emmanuel Macron se sont retrouvés hier soir au château de Meseberg, au nord de Berlin, la résidence du gouvernement fédéral. Donc, objectif, définir la meilleure stratégie pour aboutir à un accord à 27 autour de ce plan. Ce lieu de Meseberg est chargé de symboles. C'est là qu'il y a 2 ans, le président français avait obtenu de Merkel un engagement sur la création d'un budget de la zone euro. Idée accueillie du bout des lèvres en Allemagne à l'époque, mais depuis tout a changé. Français et Allemands avancent soudés, avec d'ailleurs la présidence de la commission, Ursula von der Leyen. On compare d'ailleurs les trois au fameux trio Mitterrand-Kohl-Delors qui avait relancé avec succès le projet de marché intérieur européen.
Là, Nicolas, il s'agit de sauver les économies européennes qui risquent l'effondrement si le plan de relance échoue.
Nous n'échouerons pas, a promis hier soir Merkel. Elle doit trouver un compromis donc, pour que ce plan à 750 milliards soit accepté par tout le monde. Un tiers de la somme doit être distribuée sous forme de prêts, 2 tiers de subventions directes aux États, ce qui fait hurler les pays les plus récalcitrants, les frugaux. Merkel et Macron l'ont dit hier soir, ils veulent un accord dès le Conseil européen du 17 juillet, qui se tiendra d'ailleurs en physique pour la première fois depuis le mois de mars. Merkel joue son héritage politique, elle veut mettre toute son autorité dans la balance. L'objectif à Meseberg hier soir, c'était de montrer à toute l'Europe que Français et Allemands sont totalement alignés. C'est réussi, l'image était parfaite, reste à transformer l'essai.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Europe 1. Une nouvelle journée de mobilisation des professions de santé. Dans toute la France, les médecins hospitaliers sont très déçus des dernières propositions du ministre. On en parle dans la suite du journal. À tout de suite.
Europe 1, il est 7h10, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Le Ségur de la santé doit se terminer dans quelques jours. Et pour peser sur les annonces du gouvernement, les personnels hospitaliers sont à nouveau appelés à descendre dans la rue.
Oui, plusieurs dizaines de rassemblements sont prévus dans toute la France. Les médecins hospitaliers seront sans doute parmi les manifestants. Ils sont déçus de l'enveloppe proposée hier par le ministre Olivier Véran. 300 millions d'euros, très loin des 6 à 7 milliards que demandaient les syndicats. Jean-François Sibien, vice-président d'Action Praticien Hôpital.
Nos jeunes collègues hospitaliers commencent aujourd'hui, je parle en net, après 10 ans d'études, vous avez entre 3 500 et 3 700 euros par mois. En sachant que dans le privé, les salaires sont le triple, le quadruple ou le quintuple quand vous commencez votre carrière. Donc si on veut garder les praticiens à l'hôpital, on leur verse un salaire en conséquence avec leur niveau d'études, leur niveau de responsabilité, il y a un rattrapage à faire. Donc là, aujourd'hui, avec l'ensemble des mesures qui sont annoncées, on est en train de signer la mort programmée de l'hôpital public, mais qu'on nous l'affiche, qu'on nous le dise.
Des propos recueillis par Johanna Chabas.
La pandémie est loin d'être finie et s'accélère même. L'avertissement lancé par l'Organisation mondiale de la santé qui appelle le monde à se mobiliser sans attendre un vaccin.
Deux seuils symboliques viennent d'ailleurs d'être franchis. Plus d'un demi-million de morts, 10 millions de cas au Royaume-Uni. De nouvelles mesures de confinement sont prises à Leicester, dans le centre du pays.
Nous sommes dans la dernière semaine d'école avant les vacances scolaires. Mais de très nombreux étudiants ont déjà cessé de travailler depuis bien longtemps.
Certains ne s'en plaignent pas, mais d'autres qui ont payé cher des écoles privées ont l'impression de ne pas en avoir eu pour leur argent. Pétition, avocat, ils espèrent bien se faire rembourser une partie de leurs frais de scolarité. Enquête de Victor Dolande.
Maxime est en première année d'une grande école de commerce. Pour pouvoir payer ses frais de scolarité, presque 9000 euros par an, il a dû contracter un prêt sur 5 ans. Et pendant le confinement, il a été très déçu par la qualité de l'enseignement.
On était limité à seulement des PDF ou quelques vidéos explicatives d'une dizaine de minutes. Et quand on essayait de communiquer avec les professeurs, ils nous renvoyaient toujours bouler parce qu'ils n'avaient pas à s'occuper de nous. C'est quand même très très cher payé.
Et pour le moment, son école n'est pas prête à la moindre réduction des frais de scolarité. Isabelle, elle, a un fils en deuxième année d'une école d'ingénieurs. Quelques jours après avoir constaté la même légèreté des professeurs pendant 3 mois, elle a reçu un mail avec les frais d'inscription de l'année prochaine.
On a cru comprendre qu'il y avait même une augmentation dans l'air. Donc c'est cette espèce de non-adaptation, non remise en question qui nous énerve.
Valérie Piau est avocate spécialiste en droit de l'éducation. Depuis quelques jours, elle reçoit des dizaines de demandes d'étudiants et selon elle, ces requêtes ont des chances d'aboutir.
Le principe, c'est que c'est un contrat. Donc comme tout contrat avec un professionnel, le consommateur, si on ne fournit pas la prestation pour laquelle on a payé, il est normal de pouvoir demander une réduction du prix.
Cette avocate conseille aussi aux étudiants de se regrouper entre eux pour ne pas se retrouver isolés face aux écoles.
Victor Dolande.
Et pour tous ceux qui sont en vacances, étudiants ou pas d'ailleurs, c'est une destination de rêve. La Grèce, ses plages, ces eaux transparentes, là, vous rêvez, là, à l'écoute d'Europe 1 ce matin. Son faible nombre de cas de Covid aussi.
Oui, à partir de demain, les touristes qui arrivent dans le pays auront chacun un code barre qui définira s'ils doivent être testés ou bien s'ils peuvent directement commencer leurs vacances. Tranquillement, écoutez les précisions de Jean-Sébastien Soldaini.
Tout est basé sur un questionnaire. Vous devez l'avoir impérativement rempli en ligne 48 heures avant de décoller pour la Grèce. Et c'est très précis. En plus de vos noms et prénoms, il faut préciser où vous avez séjourné dans les 15 jours qui précèdent votre arrivée, quel pays, quelle région et même dans quel hôtel. En fonction des informations fournies, le système génère ce code qui vous est attribué. Vous pouvez l'imprimer ou bien l'avoir sur votre smartphone. Et c'est ce code qui déterminera votre sort. Il sera scanné après avoir débarqué. Si vous venez d'une zone à risque Covid, vous serez orienté vers les médecins de la sécurité civile grecque. Ils vous feront un test PCR. C'est un long coton-tige passé au fond de votre gorge, puis il vous sera demandé de vous isoler dans votre hôtel en attente du résultat. Soit le résultat est négatif, et là, à vous les vacances, soit vous êtes positif, et ce sera confinement obligatoire pour 14 jours dans un hôtel intégralement payé par le gouvernement grec. En revanche, si l'algorithme considère que vous ne présentez pas de risque, vous pourrez directement récupérer vos bagages, entrer et circuler librement en Grèce.
Jean-Sébastien Soldaini. Et puis un triptyque de Francis Bacon vient de se vendre aux enchères chez Sotheby's à New York. Près de 85 millions de dollars. Une soirée qualifiée d'historique par le président de Sotheby's Europe. Et c'était la première grande vente entièrement à distance.
Ah, c'était de la vente par correspondance.
On peut dire ça.
85 millions de dollars.
C'est un triptyque inspiré par l'Orestie d'Eschyle.
Très bien, très très bien.
Et c'est sublime, je tiens à le dire.
Moi, je veux bien acheter quelques vêtements comme ça, un peu de high-tech à distance, mais... Un triptyque de Francis Bacon, il vaut mieux l'avoir en face quand même pour l'estimer. Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h15.
Et vous êtes avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed, pour votre rendez-vous santé.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Les grandes vacances débutent vendredi, on en a dit un mot tout à l'heure dans le journal. Certains enfants vont peut-être rejoindre leurs grands-parents. Est-ce risqué, Jimmy, de leur confier ?
Eh bien écoutez, c'est le moment ou jamais d'aller voir les grands-parents. L'épidémie est clairement contrôlée, en tout cas en France. Et peut-être qu'à la rentrée ou à l'automne, les choses vont être nettement plus compliquées. Donc oui, c'est le moment d'aller voir les grands-parents, de les faire garder. Alors il faut distinguer plusieurs situations. Les enfants qui ont moins de 10 ans, on sait qu'ils sont peu malades, ils portent le virus pas très longtemps et ils sont peu contagieux. La contamination se fait essentiellement des parents vers les enfants et pas tellement dans le sens inverse. Après 10 ans, il faut peut-être être un peu plus vigilant et surtout vis-à-vis des lycéens dont le profil de contamination ressemble un peu plus à celui des adultes avec une grande proportion de personnes asymptomatiques. Dans tous les cas, si les enfants ne sont pas malades, ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont pas le nez qui coule, ils ne toussent pas, s'il n'y a pas eu d'alerte à l'école, si à la maison personne n'est malade, eh bien oui, allez voir les grands-parents, faites-leur des bisous, ne mettez pas de masque et vivez normalement un été, peut-être qu'on vivra, peut-être, c'est peut-être un des rares étés assez tranquille qu'on aura.
Et si on doit voir des grands-parents pour le coup très âgés ou fragiles, qu'est-ce qu'on doit faire, Jimmy? Pour le coup, on annule?
Eh ben non, vous allez quand même les voir. C'est peut-être à contre-courant de ce que les recommandations vont dire, mais demandez aux grands-parents s'ils veulent continuer de vivre de cette façon, loin des autres, loin des contacts, loin des bisous. Alors peut-être qu'il est possible dans ces cas-là de mettre un masque si vraiment on a un très grand doute, et peut-être même qu'il est possible, et ça c'est encore une fois hors recommandation, mais j'ai des patients qui me le demandent, de faire une PCR nasale à des enfants qui ont 8, 9, 10 ans pour être sûr qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Alors c'est fiable à 70%, mais c'est mieux que rien, donc oui, allez voir les grands-parents, même s'ils sont fragiles. Voilà, on a besoin de contact, on a besoin de retrouver une vie normale. Et puis encore une fois, faites un petit peu attention, mais ça devrait bien se passer.
Et puis les gestes barrières dans la vie de tous les jours, on continue de se laver les mains évidemment, de se protéger. Merci Jimmy Mohamed, en faisant attention. J'ai l'impression que Jimmy essaie de vous dire passez un bel été quand même, quoi. C'est ce que vous disiez,
ouais, c'est
j'ai
ça,
le sentiment. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, on vous retrouve tous les jours, hein, après le journal de 7h évidemment. Et puis à partir de 15h, l'émission de santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez, c'est sans rendez-vous, 7h18.
Vous retrouvez Anice Mbida sur Europe 1, c'est l'innovation du jour.
Bonjour Anice.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il y a près de 2 millions de déficients visuels en France. Pourtant, il n'existe pas grand-chose pour les aider à se déplacer, il faut bien le dire, en toute autonomie, dans les transports en commun notamment. Mais vous, vous avez trouvé, Anice, une application qui pourrait bientôt clairement leur faciliter la vie.
Oui, c'est vrai que c'est déjà difficile quand on a une bonne vue de se repérer dans les stations, les gares, de trouver la bonne correspondance. Alors imaginez quand on est malvoyant, je ne sais pas moi, sur le quai, comment repérer ne serait-ce qu'où se trouvent les portes à l'intérieur, comment savoir quelles sont les places vides. Et avec la distanciation, c'est encore plus problématique puisqu'il y a des sièges qui sont interdits. Donc on est totalement dépendant des autres quand on est malvoyant dans les transports en commun. Eh bien, une équipe d'étudiants de l'université Polytech Paris-Saclay a mis au point un programme qui va remplacer les yeux de la personne et donner des indications vocales pour les aider à se guider, mais cette fois en totale autonomie.
Concrètement, Anice, comment ça marche ?
Eh bien, par exemple, quand on entre dans la station, on sort son téléphone, comme si on voulait filmer ce qu'il y a devant soi, et il va faire bip quand on se retrouve face à un portique libre pour mettre son ticket. Une fois sur le quai, quand le métro, le train ou le RER va arriver, eh bien, on continue à scanner avec son téléphone, et il va faire bip 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 quand on se trouve pile devant une porte. Même chose à l'intérieur, si le siège est libre et qu'il n'y a pas d'autocollant Covid dessus, là encore, il va le signaler.
Et ça fonctionne sur toutes les lignes, tous les transports en commun ?
Alors, c'est l'objectif. Pour l'instant, l'application est encore en développement. Elle ne gère pas les correspondances, par exemple, mais elle est déjà testée à Rennes, en région parisienne. Un partenariat est prévu également avec la SNCF. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser partout, bus, tram, grande ligne, etc. Ça s'appelle EasyMob et ça ira beaucoup plus loin que les fameuses bandes, vous savez, la podo tactile qu'il y a sur les quais aujourd'hui.
On les voit tous, ces bandes. Enfin, on les voit ou on les sent, en
oui,
l'occurrence. On les connaît tous, ces bandes. Je ne connaissais pas le mot qui allait avec. La bande podo tactile. Ça passe au Scrabble, ça?
Mon mot compte triple en plus.
Je vais essayer la podotactile. C'est là, je vais essayer de le placer. Anice Mbida, merci beaucoup. Très belle innovation. Il est 7h19.
Europe 1. Avant même de savoir si les JO pourront avoir lieu à Tokyo l'an prochain, on sait déjà que les athlètes auront l'interdiction de faire passer des messages politiques. L'édito sport de Virginie Fulpin.
Le monde bouge d'Axel de Tarlet juste avant. À tout de suite.
7h21, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Axel de Tarlet nous rejoint en studio, le monde bouge et Axel vous le raconte le matin. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Nouveau contrat militaire de 600 millions d'euros pour le français Thales de la part de l'armée australienne. Axel, les commandes militaires peuvent-elles sauver notre filière aéronautique ?
Bah oui, c'est malheureux à dire, mais à défaut de fabriquer des avions pour partir en vacances, on va fabriquer des avions pour faire la guerre. La France, vous le savez, est le numéro 3 mondial de l'industrie de la défense. Et il y a beaucoup d'aéronautique dans la défense. On pense bien sûr aux Rafales, à Mérignac. Les usines d'assaut doivent encore fournir 36 avions Rafales à l'Inde. Et puis ensuite, il y a tout le matériel qui va avec. Vous l'avez dit, l'armée australienne qui nous a déjà passé commande de 12 sous-marins. Hein. Eh bien, l'armée australienne nous a commandé hier aux Français Thales hein, pour plus de 600 millions d'euros de munitions.
Oui, mais Axel, avec les munitions, on est assez loin des avions Airbus. Pour le coup, ce n'est pas la même chose que de fabriquer du matériel de guerre et des avions civils.
Eh bien si, ça peut paraître curieux, mais en amont, c'est la même technologie. D'ailleurs, toute la filière aéronautique travaille pour le civil et le militaire. Dassault fabrique des Rafales, mais aussi des jets privés, les Falcon. Idem pour Airbus, qui fabrique des avions de ligne, mais aussi des avions de combat, l'Eurofighter. Et c'est la même chose pour les fournisseurs. Thales, dont on parle, eh bien, vous avez 30 000 chercheurs qui conçoivent, par exemple, le cockpit du futur. Ce sont des cockpits truffés d'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser le temps de vol, d'ajuster en temps réel le trajet, selon le trafic, selon la météo et divers obstacles. Eh bien, typiquement, ce genre de technologie sert autant dans le militaire que dans le civil. Donc, voyons le bon côté des choses, même si, évidemment, c'est une industrie plus discutable. Mais ces commandes militaires vont permettre à la filière de sauver les meubles, de faire le dos rond et surtout de garder nos compétences, nos ingénieurs, les 30 000 là chez Thales. Et donc, on va garder l'excellence de cette filière qui, rappelons-le, est la spécialité de la France. L'aéronautique, c'est le plus gros poste excédentaire de l'économie française, 29 milliards d'euros l'an dernier.
Et nous en parlions, je me souviens très bien, la semaine dernière, c'était jeudi, avec lui-même, il n'y arrive jamais, l'Union des industries, des métiers de la métallurgie. L'enjeu, c'est de garder les compétences, en attendant de faire le dos rond, chômage partiel de longue durée. L'enjeu, c'est de garder ces cadres, ces ingénieurs qui sont capables de produire, de fabriquer pour le moment où il y aura des éclaircies.
Parce que c'est la recherche derrière.
Axel de Tarlet, Le Monde bouge, et vous le racontez le matin sur Europe 1. Merci beaucoup, 7h24.
L'édito sport avec Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Le sport français est en émoi. Après l'état graciste découvert sur des portraits de nos champions sur les grilles de l'INSEP, pour vous, il faut agir. Le CIO, le Comité international olympique, doit assouplir ses règles qui interdisent, il faut le rappeler, aux athlètes tout geste de lutte contre le racisme au JO.
Je vous propose de faire un petit test autour de vous. Demandez aux gens qui vous entourent quelles images les ont le plus marquées dans l'histoire des Jeux Olympiques. Alors, il y aura quelques records, hein, des victoires françaises aussi, comme celle de Marie-Josée Pérec à Atlanta ou Lormane Odou à Athènes, par exemple. Des duels épiques, bien sûr. Mais je veux bien parier avec vous, il y aura forcément et même surtout ce podium du 200 mètres au JO de Mexico en 1968. Tommy Smith et John Carlos qui lèvent leurs poings gantés de noir, les yeux rivés au sol, pour protester contre le racisme aux États-Unis. C'est ce geste hein, qu'on a retenu beaucoup moins le fait que Tommy Smith ait battu le record du monde ce jour-là. Alors ils sont très vite passés du podium à l'enfer ces athlètes-là, puisqu'ils ont été interdits de compétition à vie. Pas de politique au JO, la charte est très claire et elle n'a pas changé depuis 1968. Je trouve que c'est là qu'il y a un petit problème. Évidemment qu'il ne faut pas de politique partisane ni de prosélytisme religieux, mais si cette image de Mexico a eu un tel impact et que tout le monde l'a en tête aujourd'hui encore, ben c'est justement parce que les JO véhiculent intrinsèquement les valeurs d'égalité entre les êtres humains. Et pour moi, les gestes de lutte contre le racisme ne devraient absolument pas y être interdits. Ils font partie de l'olympisme et je trouve que les autoriser serait un geste fort à un moment où on en a tant besoin. John Carlos, hein, l'un des protagonistes de ce podium de Mexico, a d'ailleurs signé il y a quelques jours une lettre pour demander un changement au CIO.
Oui, mais le CIO a déjà dit que le genou à terre, symbole de Black Lives Matter, serait interdit aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Ouais, on ne sait pas encore si ces Jeux Olympiques de Tokyo pourront vraiment avoir lieu. Exactement. S'ils ont lieu, on ne sait pas vraiment dans quelles conditions, ni exactement quand. C'est vrai qu'il y a un paquet de questions qui se posent avec la pandémie. C'est normal de ne pas avoir de réponse définitive pour l'instant. Mais la seule chose dont on soit certain, c'est que les sportifs n'auront pas le droit de mettre un genou à terre. Est-ce que c'était vraiment une urgence de se prononcer là-dessus de la part du CIO ? On ne sait pas si vous pourrez courir ou nager, mais en tout cas, vous ne pourrez pas montrer que vous luttez contre le racisme. Je trouve qu'on envoie un mauvais message et les tags répugnants découverts sur les photos des champions français dimanche sont une preuve de plus que cette bataille, elle est loin d'être gagnée et qu'il faudrait peut-être repenser ce qu'on considère comme politique aux Jeux Olympiques.
Oui, parce que c'est... On va le rappeler, ça c'est très franco-français, mais c'est pas une opinion hein, le racisme, c'est pas une idée politique.
C'est un délit, exactement.
Il faut peut-être le souligner, ou on va envoyer ça au CIO. Virginie Fulpin,
Monsieur Thomas Barr.
C'est sur le hashtag Europe 1. Vous trouverez facilement l'édito sport de Virginie Fulpin tous les matins, d'accord ou pas, vous l'écoutez, vous commentez, vous partagez, n'hésitez pas, 7h26.
Europe 1. Un nouveau journal à suivre à 7h30, la météo avec Laurent Cabrol, à tout de suite sur Europe 1. 7h28, Mathieu Béliard.
Et Laurent Cabrol qui est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et profitant de cette lumière qui apparaît très tôt maintenant, à cette époque de l'année, mais les jours raccourcissent. Et c'est Victor Hugo qui disait « Chaque jour perd une minute, chaque aurore pleure un rayon ». très joli. Et puis ces rayons, vous les voyez très bien en ce moment dans tout le sud-ouest, sur le massif central, l'Alsace, la Franche-Comté, le Mâconnais, le bassin méditerranéen, car il fera très beau dans ces régions. Et puis si vous habitez la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le Berry, le Poitou-Charentes et le Morvan, eh bien là le rayon est plutôt coquin hein, puisqu'il joue avec les nuages. Vous aurez des passages nuageux, notamment sur Paris, mais compte tenu des températures, ce sera super agréable quand même. Enfin, le rayon se cache en Bretagne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, Normandie, Picardie, Pas-de-Calais, mais il va ressortir dans l'après-midi, comme ça pour venir vous voir et vous caresser. Donc ce sera une journée en demi-teinte avec un dégradé de plus en plus ensoleillé en allant vers le sud et des températures qui vont s'échelonner entre 19 et 36 degrés. 19 à Brest, 36 à Avignon, en passant par 23 à Rennes, 24 à Amiens, Épinal et Besançon et 26 à Paris.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est presque 7h30.
Ce qui fait peur à beaucoup d'agriculteurs, c'est qu'on nous supprime des produits, pesticides entre autres, certains herbicides, certains insecticides, sans que l'on ait d'autres moyens alternatifs.
Les écolos percent et les agriculteurs stressent. Plus de villes gérées par les écolos et une partie du monde agricole qui s'inquiète. La question des pesticides est centrale. 6,3 milliards d'euros à destination des médecins hospitaliers, des personnels soignants, propositions issues du Ségur de la santé, scepticisme du monde de l'hôpital public qui sera une nouvelle fois dans la rue cet après-midi. Et puis un troisième budget rectificatif pour répondre à la crise économique. 45 milliards d'euros supplémentaires pour secourir notamment le tourisme.
Au lendemain d'une vague verte aux élections municipales, à 7h40, je reçois Daniel Cohn-Bendit, ancien vert, soutien d'Emmanuel Macron. 7h50, l'opinion de Nicolas Bétou, qui reviendra sur le discours d'Emmanuel Macron aux citoyens de la Convention pour le climat et sur les messages cachés à l'adresse d'Edouard Philippe. Vous êtes sur Europe 1, 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux mondes au rapport parfois électrique, écologiste et agriculteur. Conciliation très difficile, par exemple sur la question des pesticides. Alors, ce monde agricole s'inquiète-t-il ce matin de la poussée écolo après le second tour du scrutin municipal ? Nous avons voulu le savoir.
Nous sommes allés en Bretagne à la rencontre d'agriculteurs. Inquiétude réelle pour certains. D'autres espèrent au contraire le développement d'une agriculture plus écologique. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
Ils ont subi pendant des mois les attaques du maire breton anti-pesticides Daniel Cueff et les voici à nouveau secoués par une vague verte urbaine qui pourrait les éclabousser. Hervé Mouel, producteur laitier à Bourbriac, Côte d'Armor.
Ce qui fait peur à beaucoup d'agriculteurs, c'est qu'on nous supprime des produits, pesticides entre autres, certains herbicides, certains insecticides, sans que l'on ait d'autres moyens alternatifs. Il faut qu'on ait autre chose pour les remplacer, sinon on risque d'avoir une dégradation très très forte en matière de productivité dans nos exploitations. Et ça, c'est dangereux.
De leur côté, les agriculteurs bio et les associations environnementales se frottent les mains. Arnaud Clugerie, directeur d'Eau et Rivières de Bretagne.
Des nouvelles orientations municipales vont pouvoir être mises en œuvre, des cantines bio, des circuits courts d'alimentation. Va de toute façon réinterroger le modèle agricole. Et puis, ces élus, ils vont aussi maintenant pouvoir participer aux instances de décision. Ça peut infléchir des politiques publiques vers l'agroécologie notamment.
La crainte, c'est que ces nouveaux élus ne prennent pas le temps de connaître nos métiers avant de trancher, s'inquiète un producteur de porc.
Et à propos des agriculteurs, le Parlement a validé hier soir une proposition de loi pour la revalorisation de leur retraite de 75 à 85% du SMIC à partir de 2022.
149 propositions de la Convention citoyenne pour répondre à la crise environnementale, 146 retenues hier par Emmanuel Macron. Mais pas l'abaissement à 110 km/h de la vitesse maximale sur autoroute.
Une idée que le chef de l'État remet à plus tard sans l'écarter totalement, la suppression de certaines lignes aériennes intérieures. Quand votre destination est à moins de 4 heures, le président préfère s'en tenir au délai de 2h30 maximum, un délai déjà prévu dans le plan récent d'aide au secteur aérien.
Décision déplorée par Pierre Urmic, tout juste élu maire de Bordeaux, au micro européen de Stéphane Place.
On a un TGV qui a coûté très cher et qui nous amène à 2 heures de Paris. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Même si vous habitez Mérignac, c'est peut-être plus commode de prendre l'avion. Mais il faut arrêter. La commodité des uns, c'est la pollution des autres. Donc il faut faire des concessions. Vous avez un train qui vous amène à 2 heures. Vous aurez un tramway qui vous amènera de l'aéroport à la gare Saint-Jean. Donc nous, on investit pour offrir des solutions alternatives. Et vous, vous continuez à nous dire, on va vivre comme au siècle passé. Mais non, il faut qu'ils s'adaptent. Donc je suis pour, dans un premier temps, qu'on limite considérablement les navettes aériennes entre Orly et Bordeaux. On parle beaucoup des conflits droite-gauche, mais je pense qu'on va de plus en plus parler des conflits anciens mondes, de nouveaux mondes aussi.
Les personnels hospitaliers manifestent une nouvelle fois aujourd'hui. Des dizaines de cortèges prévus partout en France. Ils entendent maintenir la pression sur le gouvernement alors que le Ségur de la Santé entre dans sa dernière ligne droite.
Et hier, 300 millions d'euros ont été proposés pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Très insuffisants, dit ce matin sur Europe 1 Patrick Peloux, président des médecins urgentistes, invité du journal de 6h. Rappelons que 6 milliards ont déjà été proposés pour le personnel non médical. Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, aujourd'hui face aux députés de la commission d'enquête sur la gestion de cette crise sanitaire. C'est prévu à partir de 17h.
Et de trois, un troisième budget de crise est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Il prend en compte de nouvelles dépenses pour faire face à la crise économique.
Une rallonge de 45 milliards d'euros pour les secteurs les plus en difficulté. À qui ira cet apport supplémentaire? Les détails avec Carole Ferry.
La plus grosse part du gâteau revient au secteur du tourisme, 18 milliards d'euros, suivi de l'aéronautique, 15 milliards, et de l'automobile, 8 milliards. Les secteurs des start-up et de la culture ont également droit à un peu plus d'un milliard chacun. Des mesures sont également prévues cette semaine en faveur des jeunes, des indépendants et des commerces de centre-ville. Enfin, 750 millions d'euros seront attribués aux communes pour compenser le manque à gagner pendant la crise. Un montant très insuffisant, selon le vice-président de l'Association des maires de France, André Léniel.
C'est ridiculement bas par rapport à la réalité que subissent les communes. Nous estimons que les pertes cumulées s'élèveront autour de 6 milliards. Nous fermons une piscine, nous continuons à payer le personnel parce que nous n'avons pas droit au chômage partiel. Nous fermons un théâtre, pareil. Le gouvernement ne tient aucun compte de ce qui nous est arrivé et qui met en difficulté des milliers de communes.
Mais le gouvernement a déjà débloqué 155 milliards d'euros depuis le début de la crise et il s'y est engagé, ce sera financé sans hausse des impôts, uniquement par de la dette, surnommée dette Covid par le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
La crise qui a aussi touché l'immobilier européen vous révèle ce matin les chiffres pendant le confinement. 150 000 transactions ont été perdues. La Fédération de l'immobilier, la FNAIM, redoute une baisse de 25 à 30% des transactions cette année. Conséquence, les prix pourraient baisser ou se stabiliser dans les mois à venir, sauf à Paris.
Et on en parle dans le journal de 8h tout à l'heure.
Et quelle relance économique au niveau européen. C'était le thème de la rencontre hier entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. C'était au château de Metz au nord de Berlin. Allemagne et France souhaitent que le plan de 750 milliards d'euros soit adopté dès le Conseil européen du mois prochain.
Oui, mais il y a des réticences. Il faut convaincre l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, surnommés les quatre frugaux, Jean-Gabriel Bourgeois.
Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l'Europe. Nous pouvons faire de ce moment de vérité un moment de succès.
Et pour parvenir à ce succès, Paris et Berlin s'activent en coulisses. L'objectif, que les pays les plus sceptiques au plan européen de relance de 750 milliards d'euros finissent par le signer. Comme l'explique une ministre française, on ne peut pas leur tordre le bras. Ils doivent valider le plan avec leur parlement. L'argument choc du couple franco-allemand, les exportations. Si un pays comme le Danemark ou les Pays-Bas laisse tomber un autre plus faible, ce sont ses propres échanges commerciaux au sein de l'Union qui vont en souffrir. L'heure est encore donc aux tractations, Angela Merkel.
S'il y a des États encore sceptiques, tout le monde est d'accord pour qu'on sorte plus fort de cette crise. Nous espérons pouvoir trouver une solution, même si le chemin est encore long.
Et ce chemin, il se teinte de plus en plus de vert. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont insisté pour que les plans de relance soient contraints à des engagements climatiques en Europe. Messeberg, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et puis c'est l'un des loisirs préférés des Français, Mathieu, jouer au loto ou parier sur des chevaux ou sur des événements sportifs. Eh bien, la pratique des jeux d'argent et de hasard est en baisse sur 5 ans selon une étude publiée ce matin. Mais ceux qui jouent misent plus, on en est désormais à 200 euros par an en moyenne pour chaque joueur.
En moyenne, 200 euros, ouais. C'est beaucoup bah. 200 euros par an en moyenne.
Moi, je suis à zéro.
Merci beaucoup. Vous ne jouez pas du tout?
Je gratte un tout petit coup de temps
en temps. Ah, quand même, un petit morpion à Banco de temps en temps, Jérôme Lacroix. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme. Non, il n'allait pas partir sur un mensonge, quand même. Vous êtes sur Europe 1. Merci, Jérôme. C'était le journal de 7h30. À 8h, nous retrouvons François Geffrier pour une nouvelle édition.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
8h15, Sonia Mabrouk reçoit Éric Woerth, président Les Républicains de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron répondait hier aux citoyens de la Convention pour le climat. 146 mesures retenues sur les 149 propositions. Le tout au lendemain d'une vague verte au municipal. Environnement, mais plus précisément, on va parler d'alimentation aussi, de votre qualité de vie. C'est du concret, ça vous concerne. Nous débattons de ces mesures, de ce qu'Emmanuel Macron va en faire, de ce que vous en espérez. Qu'en attendez-vous? Tiens, concrètement, dites-le nous ce matin. Le débat, c'est à 8h30. Écrivez-nous sur le hashtag Europe 1 pour témoigner, échanger avec Arnaud Schwartz, qui sera mon invité, président de France Nature Environnement. Tout de suite, ce débat, il commence avec l'ancien eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Daniel Cohn-Bendit. C'est dans une minute sur Europe 1.
7h40, les acteurs de l'actualité sont en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen, Europe Écologie Les Verts.
Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour Mathieu Béliard.
L'actualité dans les jours qui suivent cette vague verte au municipal, mais aussi le cadre qu'Emmanuel Macron entend fixer pour la suite des travaux après les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. D'abord, simplement, Daniel Cohn-Bendit, dimanche soir, on apprend les résultats les uns après les autres. Bordeaux, Lyon, Ville, puis Métropole, Annecy, Besançon. Vous qui avez été finalement l'un des artisans de l'installation des Verts dans le paysage politique français, mais aussi un fervent soutien d'Emmanuel Macron, quelle était votre réaction à 20h, 20h30 ?
J'étais très content. J'étais très content parce que l'écologie et l'écologie politique s'impose dans l'espace politique et ça, c'est une bonne chose. C'est ce dont ont toujours rêvé les militants d'écologie. Et moi, j'avais d'ailleurs critiqué avant les élections publiquement, ce que
Les alliances entre LREM et LR.
LR, et, voilà, c'est ça. Surtout une alliance qui n'argumentait que contre les écologistes. Et j'ai trouvé ça idiot, inutile et complètement inutile et que ça ne passe pas. Et la preuve, ça n'est pas passé. Cette alliance comme ça, que j'estime même d'ailleurs en grande partie contre nature.
On préfère, toujours l'original à la copie, Daniel Cohn-Bendit.
Oui, mais ça, faut voir, il y a des différentes manières de réaliser l'écologie. Maintenant, les écologistes sont à la tête, disons, de 9 grandes villes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être le moment où les écologistes vont passer de l'idéologie de l'écologie politique à la pratique dans les grandes villes. Et là, vous verrez que les écologistes vont apprendre que quand on fait la cuisine, il faut cuire de l'eau chaude et que tout le monde la cuit de la même manière, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choc de pragmatisme chez les écologistes dans les villes, et ça c'est très bien, c'est-à-dire que vous allez avoir une écologie réaliste qui va s'imposer dans l'histoire, sinon ils vont se casser la figure dans les villes.
Mais alors, vous savez, moi, j'ai envie d'aller plus loin, Daniel Cohn-Bendit, j'ai envie d'aller encore plus loin parce que c'est très important ce que vous dites. Il y a, évidemment, on peut parler des années du clivage gauche-droite, existant, non-existant, important, pas important. Là, il y a un nouveau clivage aussi qui se crée. Si je vais un peu plus loin dans ce que vous dites, il y a même un clivage chez les écolos entre certains qui vont être économie libérale compatible et d'autres qui vont nous dire non, on change de modèle, on change de société.
Oui, d'accord, mais vous ne changez pas de société si vous êtes maire de Bordeaux, de Marseille, de Strasbourg, etc. Il faut arrêter. Regardez un peu la gestion de la ville de Grenoble, par Éric Piolle, que j'ai soutenu, que je connais bien, j'y étais souvent. C'est très bien, mais il faut pas me faire dire que la ville de Grenoble a changé de monde. Hein, il est dans le monde d'aujourd'hui. C'est une économie libérale et Éric Piolle et l'ancienne majorité structure la chose d'une manière différente. Donc, arrêtons évidemment que l'écologie doit s'intégrer dans l'économie de marché, qui est l'économie de tout le monde en Europe.
Et aujourd'hui, c'est quoi, comme on dirait pour un artiste, l'album de la maturité ? Il y a ce saut qui s'opère chez les Verts, vous le voyez, Daniel Cohn-Bendit, ou pas ? Vous qui les connaissez si bien.
Ah ben, je le vois, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi j'étais 5 ans adjoint au maire de la ville de Francfort. 685 000 habitants. J'étais responsable de l'immigration. Je vais vous dire que là, l'idéologie, vous n'êtes pas. Vous devez faire preuve d'un pragmatisme et d'une capacité de négociation, de discussion avec toute la population. Et c'est ça que les écologistes vont apprendre. Ils vont apprendre à proposer et à essayer de faire passer leurs idées de transition écologiste, mais dans un dialogue avec toute la population. Si quelqu'un est élu avec 40% à Bordeaux, par exemple, avec 40% de participation, il a moins de 20% des voix. Il a 80% de Bordelais qui sont incertains, qui ne savent pas. Et cela, il faut savoir les conquérir.
Il faut les conquérir, les convaincre aussi, peut-être un peu de pragmatisme, un travail de concertation. On va suivre ça, vous le savez bien, dans les mois et les années qui arrivent. Daniel Cohn-Bendit, la Convention citoyenne pour le climat à présent. De quoi est-ce qu'il faut parler ce matin ? Des 146 propositions que le président retient ou des 3 qu'il a laissées de côté ?
Non, mais imaginez qu'il avait gardé les 110 km/h. Vous ne parliez que de ça.
Pas,
que de ça.
Pas forcément 140... ici, mais je suis d'accord. Ouais. Ça brouillait le reste.
D'accord.
Ça brouillait le reste, Daniel Cohn-Bendit.
Oui, ça brouillait et c'était un faux débat. Donc, je trouve qu'il faut quand même savoir que Macron et la Convention citoyenne, c'est pas à cause de la victoire des écologistes le dimanche de l'avant. C'est qu'il a, pendant 9 mois, c'est lui qui l'a lancé et il a rempli son contrat, il leur avait dit « faites et je reprendrai vos propositions sans filtre », ce qu'il fait moins 3. Moins 3, c'est-à-dire ces 3 jokers. Sur les 110 km/h, il a été très drôle. Il disait « écoutez, je vous protège parce que je sais ce que c'est, une mauvaise mesure et toutes les autres passent à l'as ». Donc c'est très bien. Et puis pour le reste...
Parlons de ce qui est retenu. Le président qui annonce par exemple 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans injectés à la conversion écologique de notre économie. La conversion de l'économie, hein, faut bien entendre les mots. On sait que c'est le nerf de la guerre, l'argent. Est-ce que c'est assez, Daniel Cohn-Bendit?
Écoutez, il faut voir, il faut commencer. C'est pas la peine de... J'en sais rien.
D'accord.
Peut-être qu'ils vont s'apercevoir dans un an que c'est pas assez. Eh bien, ils rajouteront. Justement, je vous ai entendu sur les agriculteurs. Mmh. Il est évident qu'il faut aider les agriculteurs qui, aujourd'hui, utilisent des pesticides à utiliser autre chose. Je suis pas d'accord qu'il n'y ait aucune alternative, mais même s'il le faut, encore renforcer la recherche sur les alternatives.
Des chèques alimentaires, des aides pour les véhicules, pour la rénovation des logements. Après les gilets jaunes, la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais après les gilets jaunes, si on parle de transition écologique aujourd'hui, on ne peut plus balayer les questions de justice sociale.
Mais c'est
évident, indissociable.
Mais de toute façon, mais quand vous parlez de justice sociale, vous ne pouvez pas élaguer la transition écologique. Tout est interpénétré aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler d'une chose sans parler d'autre chose. Donc, c'est évident aujourd'hui que la transition écologique doit être structurée de telle manière que ceux qui ont des difficultés à s'adapter d'une manière nécessaire à l'évolution doivent être aidés. Mais, je préviens, il n'y a pas de transition écologique qui ne fasse pas mal. Parce que c'est un changement de mode de vie. Donc tous les citoyens vont être concernés. Et c'est pour ça que, si vous voulez, l'échelle CO2 qu'il y a dedans est intéressante. C'est-à-dire que vous, quand vous achetez quelque chose, eh bien on vous dit voilà ce que ça coûte, comment ça coûte pour l'environnement. Que vous soyez conscient que vous devez vous-même évoluer.
Il n'y a pas de transition écologique qui ne fasse pas mal, Daniel Cohn-Bendit.
Oui, parce que... Nous avons nos habitudes. Regardez, moi, je vais vous dire un truc. Je suis pour les 110 km/h. Mais ça serait mentir de dire que ça me fait pas mal. Ça me fait déjà 130, des fois, j'ai des difficultés. Moi, je suis quelqu'un de normal. Je sais que quand l'autoroute est vide, je me dis, mais enfin, pourquoi ne pas aller plus vite? Donc, vous voyez que nous devons nous-mêmes faire un travail sur nous-mêmes. C'est ça ce que j'appelle faire mal. Ça nous oblige à penser notre vie. Et c'est la même chose pour l'économie, sur les entreprises. Ils doivent penser leur manière de produire pour la changer. C'est pas une écologie punitive, ce n'est pas une économie et une écologie positive, c'est une économie et une écologie qui justement pousse à nous changer pour avoir un autre avenir.
Merci Daniel Cohn-Bendit. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, qui vous connaissent bien évidemment, ancien député européen, Europe Écologie Les Verts, les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1, 7h48.
Europe 1, dans un instant Périscope avec Jean-Philippe Ballas.
Et l'opinion de Nicolas Bétou dans la foulée, à tout de suite.
La matinale d'Europe 1 à 7h50, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et Jean-Philippe Ballas qui est avec nous, c'est Périscope, la culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les livres ce matin, et retour sur un petit recueil qui fait beaucoup causer dans les librairies, les fables de la Fontanelle, signé Sophie Fontanelle.
Oui, parce qu'elles disent des choses de nos temps modernes, de nos relations plus ou moins amoureuses. Ainsi la fable de l'homme qui se trompait sur les femmes, ou encore celle de la peau de vache qui était cruelle sur Tinder. C'est parfois cru, drôle, sans tabou, plutôt pour les adultes, avec une morale comme dans toutes les fables.
Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour.
Vous avez eu quoi comme type de commentaire depuis que le livre est sorti?
Comment tu sais tout ça?
Comment tu sais qu'un homme peut passer des années à s'ennuyer en faisant l'amour tout en racontant qu'il adore ça exactement comme une femme qui ment? Comment tu sais qu'une fille peut dire de telles horreurs qu'elle dirait même pas à une de ses copines? Alors, j'ai décidé de le faire en fable parce que si on rentre dans l'art de la fable, alors il y a un niveau de langage. Et c'est vraiment qu'en termes galants, ces choses-là sont dites et on peut tout aborder, on peut employer des mots très crus et ça oblige, alors un, à être élégant et ensuite à faire parler l'inconscient. Parce que pour faire rimer, si vous voulez, faut partir en vol plané pour retomber sur la rime. On finit par dire un truc que consciemment on n'aurait pas dit.
Il y a un élément qu'on retrouve en filigrane tout au long de ce livre, c'est le téléphone et notamment le phénomène du ghosting.
Effectivement, il y a des raffinements de cruauté. Avant, on recevait une lettre, on disait, moi à mon époque, on disait, tu te rends compte, il m'a envoyé une lettre au lieu de me voir. Hein. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le ghosting, par exemple, qui c'est ces gens, hommes ou femmes, qui disparaissent. Ils disparaissent, on les voit plus, quoi, ils s'évaporent, pour pas vous répondre et pour pas avoir à vous dire quelque chose, à se justifier, à expliquer leur lâcheté. Enfin, c'est voilà.
Le ghosting, on devient un fantôme, quoi.
Voilà, on devient un fantôme. Mais en fait, on clôt le sujet. C'est ça que font les fables. Elles réouvrent le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? Comment on peut répondre à quelqu'un qui vous ghost? Signale que ce recueil de fables est né de... Moi, j'avais été ghostée par quelqu'un, mais cela dit, j'ai ghosté beaucoup de monde dans ma vie, mais j'avais été ghostée par quelqu'un et je me disais, mais quand il va rappeler, parce que quand le fantôme rappelle, vous vous trouvez complètement minable. Donc, il faut quand même que je réponde quelque chose de dingue. Et c'est là où j'ai fait la fable de l'homme qui tardait à répondre.
Ça vous a fait du bien, c'est jubilatoire d'écrire des fables?
Ah, c'est complètement dingue. Après, j'ai des amis qui m'ont dit que je parlais en fable dans les dîners. Je me suis dit, mais en fait, il y a un panache à avoir. On est le pays de Cyrano, on est le pays de Brassens, hein, ça allait tous l'écouter. On est le pays d'Audiard, on a tout ça. Et on n'utilise pas ça, en fait, on ne l'utilise pas assez.
Merci Sophie Montanel.
Merci à vous.
Les fables de La Fontanelle, à quoi riment nos vies sexuelles? C'est le sous-titre signé Sophie Fontanelle chez Robert Laffont et c'était Périscope. Merci Jean-Philippe Ballas, 7h53.
L'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Retour avec vous ce matin sur le discours d'Emmanuel Macron devant les 150 citoyens de la Convention pour le climat. Il contenait, selon vous Nicolas, une série de messages directement destinés au Premier ministre.
Vous connaissez Mathieu ce que les anglo-saxons appellent le body language, cette façon qu'on a d'exprimer par son comportement ou son attitude corporelle, ses sentiments à l'égard de quelqu'un ou d'une situation. Bon, ben, j'ai bien observé Édouard Philippe hier pendant le discours du chef de l'État et on ne peut pas dire qu'il avait le visage épanoui d'un homme transporté de joie par sa brillante victoire électorale de la veille au Havre. Alors certes, Édouard Philippe a dû passer une nuit courte et peut-être arrosée après son succès, et puis il est plutôt du genre british tout en retenue, mais tout de même, sourcils froncés, visage fermé, à ce point-là, c'était voyant.
Et c'était dû à quoi? Un problème politique? Un fossé qui se creuse entre les deux têtes de l'exécutif?
Alors la période est évidemment... particulière, tout le monde est dans l'attente du remaniement et Édouard Philippe ne sait toujours pas s'il restera. Et dans ces cas-là, ben, on scrute le moindre message. Et il y en avait des messages dans le discours d'Emmanuel Macron sur la manière de gouverner, sur le fait de ne pas stigmatiser les gens, de ne pas les diviser, de ne pas les culpabiliser. Il faut écouter les gens, les embarquer dans la décision, sinon, dit Emmanuel Macron, ça ne marche pas. Bon, depuis la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État pense avoir intégré tout cela dans son mode de gouvernement. Mais il estime aussi que Matignon est resté trop raide, pas assez mobile ou rapide dans l'action. Ce n'est pas un secret que dans la gestion de la crise du Covid, par exemple, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont eu des désaccords sur la rigueur du confinement et du déconfinement, sur la communication gouvernementale. Leurs points de vue ont plusieurs fois divergé. Même chose sur les 80 km/h. Le président hier a rappelé d'un air goguenard qu'il savait ce que l'inflexibilité, sous-entendue de Matignon, lui avait coûté en popularité. Des mois de travail qui s'abîment dans une polémique, tout le monde a ri, tout le monde sauf...
Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe lui-même. Oui. Et sur le fond des mesures, il y a aussi des divergences.
Ce qu'on comprend de ces déclarations, y compris à la mairie du Havre au soir de sa réélection, c'est que le Premier ministre n'est pas un fan absolu de cette démocratie participative, qu'il ne la place certainement pas à égalité avec la démocratie représentative, celle des élus du peuple, pas celle des gagnants d'un tirage au sort. Il est donc un peu inquiet de voir sur quel piédestal on installe cette convention citoyenne, comme on la flatte, comme on la caresse dans le sens du poil, même lorsqu'elle propose des mesures coercitives qui justement peuvent être brutales. Bon, mais c'est sûr, Emmanuel Macron est dans un tout autre état d'esprit et il a fait hier devant les 150 un exercice de pure politique avec ce qu'il faut de démagogie. Il a, comme promis, transmis sans filtre les recommandations de la Convention au gouvernement et au Parlement, sauf 3 ou 4, à charge pour eux de se dépatouiller avec. Et il a en plus donné aux 150 un droit d'alerte, un droit de dénoncer le gouvernement si son action ne suivait pas. Largement de quoi, quand on est Premier ministre, froncer les sourcils.
Largement. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito et le body language qui va avec. Non, vous êtes plutôt poker face, Nicolas Bétou.
Transparent, peut-être.
Je ne sais pas, non, vous êtes... On essaie de vous lire, on va essayer de vous lire, plus difficile que pour Edouard Philippe en l'occurrence et ses sourcils. Votre édito tous les matins sur Europe 1 juste avant 8h, il est 7h56.
Europe 1.
Et notez qu'Éric Woerth, député Les Républicains, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin.
Le journal avance là à 8h et la météo de Laurent Cabrol. A tout de suite.